sa champagne, regardez. C'est si bon, une coupe de champagne au Kremlin, en pleine guerre, alors que vous décorez un certain nombre de militaires russes. C'est l'une des images du jour en provenance de Moscou. Poutine a une coupe à la main, après avoir expliqué que, oui, les Russes vont continuer à viser les infrastructures énergétiques ukrainiennes.
En ce moment, il y a beaucoup de remous à propos des attaques que l'on mène contre les infrastructures énergétiques du pays voisin. Oui, c'est vrai, nous le faisons. Mais qui a commencé? Qui a frappé le pont de Crimée? Qui a fait sauter les lignes électriques de la centrale nucléaire de Koursk? Qui ne fournit pas d'eau à Donetsk? Ne pas fournir d'eau à une ville de plus d'un million d'habitants est un acte de génocide. Personne n'a jamais dit un mot à ce sujet. Un silence total. Mais nous, dès que nous bougeons et faisons quelque chose en réponse, ils crient, ils hurlent dans tout l'univers. Mais cela ne va pas interférer avec nos missions de combat. Et je veux vous remercier tous, vous et vos frères d'armes, de le faire de la manière la plus digne. Merci beaucoup. Et félicitations à tous pour cette haute récompense. Une bonne et heureuse année à tous.
Cette scène, elle est extraordinaire parce qu'il y a il y a un gouffre entre l'image que l'on voit, un Poutine de plus en plus détendu, et qui dit, Javidal, des horreurs.
Des mensonges surtout, parce qu'il raconte avec un flegme absolu, mais c'est à cela qu'on reconnaît un véritable animal politique, je pense, un flegme absolu, une distance absolue, des mensonges qui sont effectivement à destination de la population russe, dont il est très important de la convaincre que, bien sûr, la Russie n'a pas fait usage de la force avant d'être attaquée. Donc, presque toujours dans la dialectique d'une agression, on se défend d'être agresseur et on prétend qu'on est soi-même agressé. C'est très rare dans une civilisation de pouvoir revendiquer l'usage de la force avant d'être agressé. Donc, première chose. Et puis, cette séquence, bien sûr, elle vient répondre à l'absence de proximité préalable qu'on avait notée entre le président et son entourage, avec le fait qu'une grande distance le séparait. On le voit en plus en présence de militaires, alors que l'armée est dans une situation de défiance assez affirmée vis-à-vis de l'institution présidentielle. Et puis, c'est encore une fois, c'est un moment de célébration de fin d'année. L'Ukraine n'a pas agressé la Russie. L'Ukraine subit une guerre d'agression. Certes, elle frappe maintenant sur le territoire russe, ce qui est relativement nouveau. Ce qui est nouveau vraiment, c'est que les autorités le reconnaissent, les autorités russes, mais elle ne frappe pas d'infrastructures civiles, contrairement à la Russie. Donc on a ce mélange très propre à l'exécutif russe de mensonges qui va aller, je pense, en s'affirmant, puisqu'on a vu hier, je pense qu'on a vu aussi des séquences où la Russie est de plus en plus dans une posture de défense. Et moi, cette posture, elle m'inquiète profondément parce qu'on va arriver au moment où la Russie pourra bon droit dire qu'elle est effectivement attaquée. Qu'elle est attaquée et poursuivie sur ses frontières par l'OTAN
qui va s'élargir.
En termes d'image, ça ne peut pas être mal pris par la population russe et les soldats russes. C'est-à-dire qu'on a quand même Vladimir Poutine qui trinque au champagne sous les horreurs du Kremlin avec des soldats d'opérette.
C'est ce que fait le pouvoir.
Au moment où ces hommes sont dans la boue, sont mal équipés, où les maires se plaignent de l'état de l'armée russe. Et donc le contraste entre les deux est quand même. Comment ça peut être pris par ces familles de soldats et par la société russe?
Et quel contraste en plus par rapport aux images avec le Zelensky dans cette guerre de communication. Alors on sait qu'il ne s'adresse pas au même public, évidemment, mais Zelensky, c'était il y a un ou deux jours sur le front dans le Donbass pour montrer la proximité avec ses hommes. Donc effectivement, on voit qu'il y a une logique de communication qui n'est pas du tout la même.
Oui, mais il y a une conception du pouvoir et une représentation, une culture du pouvoir qui n'est pas du tout la même. Zelensky, il essaye et il réussit jusque pour l'instant à incarner un peu notre idéal du leader démocratique avec une horizontalité, une proximité, une participation. Alors que Vladimir Poutine est dans la tradition russe d'ordinaire, le pouvoir est distant, le pouvoir est vertical, le pouvoir est excessif et il use d'or et de tous les signes apparents du pouvoir. On ne veut pas un autre pouvoir en Russie, ou alors on est opposant.
C'est un détail ou pas, j'ai dit qu'il buvait du champagne, on n'en sait rien en fait.
On n'en sait rien. Et d'ailleurs, la petite anecdote encore, parce qu'il faut toujours raconter les petits secrets de Poutine.
Allez-y.
Il y a sa femme qui a engueulé à un moment donné Sergueï Pougatchev, qui était son ami. Il faut jamais donner à Poutine la moindre goutte de l'alcool, parce qu'à chaque fois quand il buvait du vin, il l'a torturé. Il l'a torturé, sa pauvre femme. Il la battait pas, mais il l'a torturé. Il lui faisait des bleus. Elle souffrait et à chaque fois, enfin, elle disait surtout ne le faites pas boire. Pour la communication, encore deux remarques. Vous avez remarqué, les militaires, les officiers, il a décoré, il a fait les héros de Russie. Mais les héros, pourquoi faire? Parce que l'armée a tout perdu jusqu'à maintenant. Ils se sont retirés de Kiev, de Tcherniv, de Sumy. Ils se sont retirés de Kharkiv. Ils se sont retirés de Kherson. Et là, il fait des héros pour l'armée qui se retire. Donc ça, c'est complètement imbécile. Et il y a autre chose aussi. Le discours qu'elle a prononcé aujourd'hui, c'est le discours qui va figurer dans ce tribunal ad hoc parce qu'il a dit... Oui, je bombarde. Oui, je bombarde les civils. Oui, je suis coupable. Oui, je suis un criminel de guerre. Merci, Vladimir.
Moi, juste rebondir là-dessus, je pense qu'on peut être héroïsé sans pour autant avoir des victoires. Hein. Ça s'appelle résister. Et en fait, lui, je pense que c'est aussi comme ça qu'il s'imagine, enfin, qu'il aimerait bien qu'on l'imagine dans le monde, comme un résistant. Moi, c'est ce que j'entends lorsqu'il parle, qu'il a envie de prendre genre, la tête, comme il y a en face de lui le monde libre, lui, il a envie de prendre la tête des non-alignés, etc. Et donc, il les héroïse précisément parce qu'il résiste. Et même s'il perd, je veux dire, regardez la résistance... avec un grand R en France, c'est des gens qui ont perdu, mais c'est des gens qui ont quand même résisté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je reviens sur ce que disait Elsa sur le caractère fastueux et déconnecté. Mais c'est vrai que ça fait un peu penser à Louis XVI qui écrivait le 14 juillet dans son livre, je sais pas de comment on appelle ça,
le journal intime.
Dans son journal intime, exactement. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça pour Louis XVI, mais il a écrit le 14 juillet rien. Il s'est rien passé. Et en fait, lui, c'est un peu ça qu'il dit. Il dit il ne se passe rien, ou plutôt tout est absolument normal et la Russie d'hier c'est la Russie d'aujourd'hui et il y a une extrême continuité et il a envie que les Russes voient ça en fait dans cette cérémonie là.
Colonel et ensuite l'opération Arche de Noé. Colonel
oui, d'abord en détail, c'est pas parce que on est dans une armée battue qu'on ne peut pas être courageux, qu'on peut pas être un soldat courageux. Donc je sais pas si ce sont franchement des soldats d'opérette. Moi j'ai toujours un immense respect forcément pour les.
Mais les héros de Russie pour envahir un autre pays.
Ah non, mais ça sur le fond.
C'est pas la question de la cause. On parle d'individus, de courage individuel, éventuellement. Maintenant, je connais pas ces gars. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais non, voilà. Mais je pense qu'on est surtout effectivement dans un discours différent maintenant, qui est un leader. Et il joue toujours sur deux registres. Registre mobilisation, un peu la Churchill. Voilà, il y aura du sang et des larmes, et il faut faire un effort terrible. Et puis il y a le discours de sécurisation. Voilà, ça va bien se passer. On va y arriver, tranquille. Voilà, pas de stress, diminuer le stress, rassurer en fait, c'est ça. Et je pense qu'il est plus quand on écoute le discours d'hier ou c'est-à-dire, on est plutôt dans ce registre-là vis-à-vis de la population russe. Voilà, effectivement, nous serons sur un conflit long, mais voilà, il faut se rassurer. Nous vaincrons, nous avons les moyens et nous tiendrons beaucoup plus longtemps que les Ukrainiens sur lesquels nous mettons la pression, mais tiendrons beaucoup plus longtemps que les Occidentaux qui vont craquer et finalement vont cesser leur aide finalement rapidement à l'Ukraine par le froid. Et voilà. Et puis nous continuons le combat. Nous sommes dans notre bon droit. Nous sommes en défense, non plus même contre l'Ukraine, mais en fait contre le monde entier, le monde occidental en tout cas. Nous ne faisons que nous défendre.
Colonel, je reviens sur le mot que vous avez employé, le mot de courage pour les soldats russes. Oui. Vous voyez bien que c'est un mot qui perturbe un peu, que vous l'employiez comme ça en parlant de ces soldats russes quand on a passé comme ça ces 9 mois et quelques de guerre.
Boucha,
quand on a parlé de Boucha et compagnie.
Il y a une énorme quantité de salauds mais, là-dedans. Mais ça n'empêche pas, ce sont des soldats, donc des gens qui se battent.
Il y en a 50 à 100 qui meurent chaque jour. Dans la région de Bakhmout, ce sont des. On dit qu'on en voit comme ça.
Non, mais je préfère qu'on précise des choses. Ben voilà. C'est un terme qui perturbe quand il est appliqué à les soldats russes aujourd'hui après quasiment 10 mois de guerre.
Il y a des salauds courageux.
Où ils sont pas forcément que il y a peut-être pas forcément 200 000 salauds en Ukraine non plus. Hein. Voilà, même si je suis pas sûr que ce soit un des critères qui était de sélection pour les décorations. Mais en tout cas, oui, il y a quand même des hommes courageux. Sinon, l'armée russe n'existerait plus depuis longtemps.
Je crois que la différence c'est courage. Ok. Mais la cause est mauvaise.
Ah ben ça, on est d'accord.
Et donc on peut être courageux pour une mauvaise cause.
Non, mais on est d'accord.
Bon,